Oui, je t'aime, on peut le crier fort sur les toits, mais on peut le chanter délicatement dans l'oreille de son épouse, ou de son enfant, ou de son mari. Bien, nous allons lire ensemble l'histoire qu'on a certainement dû lire 100 000 fois. L'histoire de l'enfant prodigue, Luc chapitre 15 et au verset 11. On est heureux de voir les frères et sœurs de passage, mais je veux signaler quand même avant de prêcher, je veux signaler la présence d'Odile Bombo. Que Dieu te bénisse, Odile. On t'accueille avec beaucoup de bonheur et d'émotion. Oui, que le Seigneur te bénisse avec tes parents, ta famille. Je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, on en dira un petit mot après. Bon, Luc chapitre 15, verset 11. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai. » J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Et on va arrêter ici pour l'instant. Amen. Eh bien, je m'adresse aux plus jeunes, aux plus anciens, aux enfants. Je m'adresse avec cette histoire quand même extraordinaire, histoire de famille. Et dans les familles, il y a parfois des manques de sentiments. Dans la famille, il faut toujours soigner ses relations, ses paroles, ses sentiments, ses décisions. Attention, la famille, c'est un corps. Et voilà que dans cette famille, il y avait un jeune garçon, puis un garçon un peu plus âgé. Puis un jour, un matin au petit déjeuner, le plus petit a dit, « Papa, donne-moi la part de bien, donne-moi mon héritage. » Si j'avais dit ça à mon père, il m'aurait dit, « Tu veux que je meure avant l'heure? Donne-moi mon héritage, maintenant, et je pars. » Encore hier soir, je me suis dit, « Mais pourquoi est-il parti? Avez-vous réfléchi? Il n'a pas dit pourquoi il partait. » Et le père ne l'a pas dit non plus, ni le fils aîné. Pourquoi est-il parti? Peut-être qu'il avait entendu parler que là-bas, au bout du chemin, il y a une route qui mène dans un pays où il y a vraiment de l'argent et de la joie, beaucoup de choses bien et des filles et de la drogue et de l'alcool. Tout est beau. Il a entendu parler qu'il y avait un autre monde. Alors il veut trouver ce monde qui n'a pas les valeurs de son père, qui n'a pas le sérieux de la maison familiale. Il est parti. C'est-à-dire, en général, quand on donne l'héritage, c'est qu'on est mort. Il est parti, ça veut dire que pour le fils prodigue, son papa, il est quick, il est mort. On n'en parle plus, il est comme mort. Pour le fils, il est mort. Et il dit surtout, je vais partir dans un pays éloigné, comme ça je ne reviendrai même pas à ton enterrement. De toute façon, tout sera réglé, tout est chez le notaire. Donc le père a partagé son bien avec ce petit garçon, qui était certainement majeur quand même. Il a partagé son bien avec l'aîné. Il y a un partage juste. Donc lui, le père, il n'a plus rien. Il dépend du fils aîné, qui semble le plus stable. Mais le petit, lui, il est parti. Il est parti dans ce pays. Il a tout gaspillé, il a dissipé, il a brûlé la chandelle par les deux bouts, gaspillé des années de sueur, de travail, de comptabilité, de précaution, de projet, il a tout gaspillé. Là, il y a une génération qui travaille, il y a une génération qui suit, qui développe l'entreprise, qui économise, et une génération qui gaspille. Les maîtres verriers qui ont fait les vitraux de cette église, il y a 160 ans, la première génération a couvert un tiers de la France en vitraux, la maison Lobin de Tours. Deuxième génération, ils ont prospéré, ils ont bien stabilisé l'entreprise de vitrail. Troisième génération, ils ont tout mangé. Oups ! Allez, on s'amuse. Quatrième génération, il n'y avait pas. Il n'y avait plus rien. Dernier vitraux de Lobin de Rennes. Mes amis, le fils est parti. Il est parti et il s'est retrouvé dans le besoin parce qu'on n'est pas maître des événements, on n'est pas maître de rien dans sa vie, on n'est pas maître de sa santé, on n'est pas maître des autres, de leurs décisions. Il s'est retrouvé dans la famine. Il n'avait plus de copains, il n'avait plus de père qui était loin, qui était comme mort. Il n'avait plus personne. Heureusement, il a trouvé un homme, Jésus dit dans sa langue, les apôtres disent dans leur langage, il s'est collé à un homme qui était comme son deuxième père, un faux père. Parce qu'un père, ça ne dit pas à son enfant, va manger la pâtée des cochons, tu n'auras que ça ce midi. Mais lui, il disait plus que ça, il a dit, je t'interdis de manger la pâtée des cochons. Mais monsieur, est-ce que je peux avoir un salaire? Non. Est-ce que je peux? Non. Tu travailles, c'est tout. Tu ne manges pas et tu n'auras aucun salaire. Il est devenu fou. Il est mort lui-même. Et puis, il est rentré en soi lui-même. Il a réfléchi. Vous savez, quand on touche le fond comme ça, on réfléchit, on est seul devant sa vie, on est seul devant sa détresse, devant ses erreurs, devant sa brutalité. C'est une brute ce petit jeune homme, on le dit maintenant, on peut le dire. Il y a des maris qui sont des brutes, il y a des enfants qui sont des brutes. Il a fait mal à son père, il a tué son père, tué de chagrin. Et puis là, il est rentré en lui-même. Quand on va mal, on regarde un peu à l'intérieur de soi. Et on se dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? On peut se dire ça à 20 ans, on peut se dire ça à 60 ans, à 80 ans. Qu'ai-je fait de ma vie? Je lis actuellement la vie de Albert Schweitzer pendant quelques jours de vacances. Là. Il était organiste de réputation mondiale, théologien de réputation mondiale. un écrivain de réputation mondiale, un pasteur reconnu partout, un Alsacien. Puis Schweitzer, à un moment donné, il a dit, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quel est le plus important? Et à 30 ans, il a repris des études de médecine et il est parti s'enfermer au Gabon parmi les lépreux. Il a construit un hôpital. Il a choisi une bonne part pour lui jusqu'à sa mort. Alors mes amis, notre jeune homme a dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Il a eu ce flash. Je pense qu'un retour vers Dieu, c'est un flash. Tout à coup, on se dit, mais attention! Tu brûles ta vie, tu joues, tu bois, tu manges, tu as des camaraderies qui ne volent pas dessous, tu te laisses entraîner, tu gaspilles tes jours, tu gaspilles ton intelligence, tu ne fais rien de propre. Mais ce flash, il faut l'avoir, mais c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Parce que ce jeune homme, il représente notre vie qui a lâché la main de Dieu et qui a profité de l'héritage. Donne-moi la part de bien. Mais le vrai bien, ce n'est pas des sous, monsieur, jeune homme. Le vrai bien, c'est l'exemple que ton père t'a donné. Le vrai bien, c'est l'éducation qu'il t'a donnée. Le vrai bien, c'est la politesse, c'est la confiance, c'est la foi, c'est l'espérance. Ça, c'est le vrai bien. Mais sinon, le reste, c'est fumée des fumées. Vanité des vanités. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Le vrai bien, tu l'as chaque jour. Il te le donnera jusqu'à ton dernier jour. Le vrai bien, c'est l'amour, c'est la foi, c'est l'espérance. Alors il a eu ce retour en lui-même. Puis là, il a dit une belle parole quand même. Belle et pas belle à la fois, je ne sais pas comment dire. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Il a dit deux choses là. Mon père, oh! Ah bon, t'as un père? Ça fait déjà longtemps qu'il ne parle plus de son père. Il a oublié son père. Son père, il est mort. La preuve, l'héritage, il l'a eu. Mais voilà qu'il parle de son père. Donc, il n'est pas seul. Donc, il est un fils. Donc, il a une famille, il a une maison. Vous savez, ces petites choses-là, on fait attention. Parfois, des gens me disent des choses banales, banales, ras du sol. Il y a peut-être quelqu'un là-haut. Avec ça, on va pas haut. Il y a peut-être quelqu'un là-haut. Mais je me dis, c'est une petite étincelle, une petite. Et je souffle dessus pour dire, oui, il y a quelqu'un et qui nous aime et qui peut vous aider et vous changer la vie. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Deuxième chose, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain? Et moi ici, je crève de faim. Tu penses au pain ou à ton père? Jeune homme, regarde-moi, tu penses d'abord à ton pain, tu penses d'abord à ton estomac, mais la peine que tu as faite à ton père, tu n'y penses pas. Tu es un ingrat. Tu manges, tu as envie de manger, et tu ne t'occupes pas de ton père qui ne mange plus, qui pleure et qui t'attend chaque jour. L'ingratitude est un défaut terrible sur la terre. Alors il a dit, belle parole, l'une des plus belles de l'Évangile. Je me lèverai. Il faut le faire déjà, vous savez. Ça ne court pas les rues, des gens qui disent, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. Ça ne court pas les rues. Les gens ne pensent plus à Dieu, ne regardent plus vers le ciel. Il a dit cette belle parole, qui est une parole de conversion, une parole de nouvelle naissance. Et quand le père a vu son fils, il a couru. C'est le père qui a couru, c'est pas le fils. Voilà le père. Peint par cet admirable peintre protestant, Rembrandt. Il y a 5 siècles, il a peint cette peinture qui est au musée à Stalingrad, Saint-Pétersbourg, je ne sais plus, enfin bref. Il a peint ce père qui l'attendait tellement que ses yeux se sont usés. Il a peint ce père qui avait une main d'homme, une main de femme pour montrer ce cœur de maman, ce cœur de père qui l'attend, qui attend son fils. Et quand le Père, au bout du chemin, il a vu arriver tout là-bas le Fils, le Père, il a couru vers son Fils, et il l'a serré dans ses bras, et je crois que là, il a dû le soulever sentimentalement, il a dû le soulever de sa boue, il l'a soulevé de sa détresse, il l'a soulevé de son découragement, de sa mort, parce qu'il mourait, ce garçon. Quand on dit à un jeune homme en pleine santé, tu ne mangeras pas la pâtée des cochons, tu mangeras rien. C'est-à-dire, je te condamne à mourir. Le Père le reprend, le ressuscite. C'est plus que du pain, ça. C'est de l'amour. Et Rembrandt, là, il est dans une attitude où on sent le Fils prodigue qui naît, qui renaît, comme si qu'il accouchait de son Fils qui vient d'arriver. Mon Fils était mort, il est revenu à la vie. C'est beau? Alors pour nous, ça nous parle. Ça nous parle parce que peut-être que cette semaine ou pendant les vacances, on a lâché la main de Dieu, puis on ne regarde plus la parole, on ne lit plus, on ne prie plus. Et il ne faut pas lâcher la main de Dieu un instant. Et peut-être que les épreuves de la vie nous ont découragés. Il faut revenir à ce Père qui nous attend. Le Père n'a jamais cessé. Ce qui est beau, c'est que le Fils ne l'a pas vu, mais le Père n'a jamais cessé de l'aimer. Il l'aime toujours, depuis toujours. Et quand le Père l'a pris dans ses bras, il l'a couvert de baisers. Et chaque baiser devait dire à son Fils, « Je t'attendais, tu sais. » Chaque baiser devait dire, « Je savais que tu reviendrais un jour. Je prendrai soin de toi. Je te guérirai, je te consolerai. » Tu ne manqueras de rien, tu es mon enfant. Chaque baiser devait être un message d'espoir, de réconfort, de vie. Regardez ce fils-là qui revient, comme c'est beau. Je suis le fils prodigue, vous êtes le fils prodigue, la fille prodigue. Nous avons laissé, c'est le drame de l'humanité, nous avons lâché la main de Dieu. Et nous avons été broyés par des événements qu'on ne maîtrisait pas. Mais je vous dis, dans les événements de la vie les plus dramatiques, il peut y avoir un déclic. C'est peut-être dans les événements dramatiques qu'il y a un déclic. Pas pour dire zut, mais pour dire mon Père, je reviens vers toi. Beaucoup de gens honnêtes, je jette la pierre à personne, je ne juge personne, m'ont dit si Dieu existe, qu'il vienne me secourir, je n'en peux plus. Mais le péché et la détresse de ce jeune homme lui a permis de voir l'amour du Père. Il s'en est peut-être rappelé que le papa était gentil, avenant, agréable, toujours prévenant pour son enfant. Il s'en rappelle peut-être, mais là, il a vu. Nos difficultés nous permettent de voir l'amour de Dieu, plus nos péchés. Oh. Nos péchés nous permettent de voir l'amour de Dieu, comme personne ne peut le voir. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel, psaume 116, toute ma vie, je l'invoquerai. Eh bien, je vous laisse avec ces paroles pour cette semaine. Je me lèverai, c'est encore les vacances, hein, un petit peu. Enfin, même si ce n'est pas des vacances, c'est encore le temps de l'été, un temps où il fait jour tard, où on peut réfléchir. Cet été, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Père, pardonne-moi et reprends-moi dans la vie. Redonne-moi les choses que j'ai perdues. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, nous sommes les frères de l'enfant prodigue, les sœurs de l'enfant prodigue. Nous allons mal. Et on a du mal à l'admettre. Seigneur, merci parce que dans les événements difficiles de la vie, ta voix se fait entendre. reviens à moi. Enfant égaré, comme nous le chantions autrefois dans le temps du réveil, reviens, enfant égaré, à ton Père. Toujours il pardonne. Ce matin, nous voulons mettre notre main dans la tienne. Nous voulons te dire, guéris notre dureté de cœur, notre aveuglement, guéris notre misère. Jamais tu as abandonné ton Fils prodigue. Jamais le Père n'a tiré un trait sur son enfant. Jamais le Père a renoncé à aimer son Fils. Il était toujours là. Dieu est toujours là dans tout ce que vous vivez. Je dis ça, c'est ma prière, mais c'est aussi une parole que je vous laisse. Le Fils, il se condamnait. Je ne suis plus digne, je ne vaux plus rien, je ne suis plus ton fils, traite-moi comme un ouvrier. Il se condamne, il est dur envers lui. Dieu n'est pas dur envers nous. Il a dit, je termine là, mon fils, écoutez bien les deux mots, mon fils était mort, malgré sa joie et son alcool, et son pétillant, il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Seigneur, nous voici, à toi tout honneur et toute gloire pour tes grandes œuvres. Amen.